Notre mission ici à Weekend Radio, c'est bien sûr de vous présenter des bonnes tunes, évidemment de vous divertir, de vous informer et parler de sujets qui viennent nous chercher, qui nous intéressent et qui vous intéressent. Et l'histoire de Charles et Louis-Maxime nous a particulièrement intéressés, donc on s'est dit, on va les inviter en studio et on va parler de ce processus-là. Charles Savard, Louis-Maxime Tremblay, bienvenue à Weekend Radio.
Merci. Merci beaucoup.
Parlons de votre histoire. Moi, j'ai vu votre publication sur les réseaux sociaux. En fait, vous êtes un couple, mm-hmm. vous êtes mariés et vous voulez devenir parent.
Exactement.
Et là, le processus que vous avez choisi de faire, en fait, je vais vous laisser expliquer qu'est-ce que vous avez choisi de faire pour devenir parent, justement.
En fait, étant deux hommes, évidemment, on le savait que ça allait être plus difficile que la moyenne des couples. Et donc, grâce à la sœur à Louis qui nous a offert de faire un don d'ovule, en fait, on a choisi de passer par la procréation assistée, donc avec la gestation pour autrui, c'est-à-dire de passer par une femme porteuse. Donc, le processus est commencé depuis plus d'un an en ce moment. Puis, dans les dernières semaines, on a fait le don d'ovule et la fécondation. Donc, en ce moment, on a des embryons qui sont congelés. Puis... c'est ça, c'est vraiment le processus qu'on a choisi.
Puis c'est un processus, honnêtement, qui... tu sais, on en entend parler. Je sais qu'il y a eu des législations aussi concernant justement cette façon de procéder-là. Vous, votre processus décisionnel aussi de choisir d'aller vers là, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers...
En fait, c'est un peu un concours de circonstances parce que c'est une situation qui, comme Charles disait tantôt, c'est pas nécessairement facile pour nous. On a regardé pour l'adoption à l'international. Malheureusement, aujourd'hui, pour un couple gay, c'est beaucoup plus difficile. Même pour un couple...
Encore aujourd'hui?
Mais en fait, c'est plus sévère qu'avant parce que, heureusement pour les gens du pays, mais maintenant, les pays favorisent l'adoption nationale, donc pour que les enfants restent dans leur culture et dans leur famille, ce qui fait que les frontières se sont refermées. Donc, pour nous, le seul choix qu'on avait, c'était en Colombie, un enfant soit de très âgé, en haut de 7 ans, ou encore avec un lourd handicap. Donc, nous, ce n'était pas nécessairement une option qu'on voulait aller. Après ça, l'adoption au Québec pour avoir un jeune enfant, c'était des années d'attente. On nous a dit que c'est environ 10 ans. C'est sûr qu'on peut être banque mixte aussi. Mais pour nous, banque mixte, c'est plus difficile parce que c'est toujours un stress à savoir. Moi, les gens qui font ça, je les trouve extraordinaires. Mais est-ce que j'ai la capacité de gérer le stress à savoir est-ce que l'enfant va retourner dans sa famille? Est-ce que l'enfant, je dois le partager aux deux semaines? Moi, je me suis dit, je suis pas capable d'aller par ce processus-là. Donc, ce qui nous restait, c'était pas mal les femmes porteuses et la gestion pour autrui.
Puis là, ça a été, justement, c'est légal, il faut le dire, depuis peu.
En fait, avant, c'était pas illégal. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de risque de prison, d'avoir des peines comme ça si on le faisait. Par contre, c'était pas encadré par la loi. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y avait aucune façon de faire un contrat. Même si tu faisais un contrat, que tu trouvais un avocat ou quoi que ce soit, ça ne valait rien devant la loi. Donc, c'était pas encadré. Maintenant, par contre, depuis le mois de juin dernier, c'est rendu obligatoire d'avoir un contrat puis d'avoir un encadrement à ce niveau-là. Puis, c'est une loi qui est progressive, donc... Pendant quelques années, il va y avoir des nouvelles étapes avec des ajouts à cette loi-là.
Là, je lis votre publication. On parle de médecins, infirmières, psychologues et avocats. Oui. Pourquoi il y a autant de monde impliqué dans ce dossier-là?
Bien, c'est parce qu'il faut s'assurer que les gens qui vont être dans le processus soient physiquement et psychologiquement aptes à passer à travers ça.
Ben oui.
Je donne un exemple. C'est sûr qu'il faut être prêt à accueillir l'enfant, lui expliquer d'où il vient, c'est quoi son histoire, est-ce que la personne qui fait le don d'ovule comprend ce qu'elle fait, sa place aussi dans l'histoire, est-ce que la femme porteuse va être à l'aise? Ensuite, les avocats, c'est pour les contrats. Puis ça a l'air froid, le contrat, dit comme ça, mais c'est très utile, c'est comme un contrat de mariage. Au final, on fait un contrat pendant qu'on s'aime, mais si jamais quelque chose, il y a une anicroche, au final, on a déjà un contrat qui dit quoi faire. Mais c'est aussi pour le remboursement des frais, parce qu'on ne peut pas la rémunérer, mais on rembourse tous ses frais, évidemment. Donc, toutes ces choses-là doivent être attachées. Ensuite, des médecins, parce qu'il faut qu'ils rencontrent tant la donneuse de vulve que le donneur de sperme. Donc, c'est une multitude de gens sans arrêt dans le dossier. C'est quelque chose de très public, donc c'est très particulier de vivre ça.
Puis même légalement parlant, tu sais, je pense, mettons, à la suite, la femme décide de porter votre enfant, tout ça, tu sais, je veux dire, à la fin, il faut qu'elle soit consciente, puis ça doit être marqué sur papier, puis que malheureusement, même si tu as donné beaucoup d'amour, c'est votre enfant, tu sais, je veux dire.
Au Québec, en fait, ils ont créé la loi d'une façon un peu différente des autres provinces, puis d'ailleurs, on a parlé à des avocats qui sont dans les dossiers depuis des dizaines et des dizaines d'années, ils ont été un peu surpris de la façon de faire du Québec, c'est-à-dire qu'au Québec, malgré le contrat, la femme, après la naissance, elle a jusqu'à 30 jours pour signer les papiers comme quoi elle reconnaît la parentalité dans notre cas, des deux pères ou des parents qui ont fait le processus. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait comme une possibilité qu'elle pourrait garder l'enfant. Okay. Cela dit, c'est jamais arrivé au Canada qu'il y ait un cas répertorié comme ça, mais pour l'instant, il y a comme une brèche légale au Québec de cette façon-là.
C'est un risque aussi pour vous, définitivement.
Mais c'est particulier parce que vous l'expliquez super bien.
Oui, vraiment.
Le processus, mais en même temps, là, on est dans les technicalités, la légalité, tout ce qui encadre tout ça. Mais les motifs là-dedans, vous le vivez comment?
C'est une montagne russe depuis le début du processus parce que même si on se dit qu'il y a des tonnes et des tonnes de gens qui sont passés par là avant nous, c'est pas un processus qui est linéaire. Puis au début, même s'il y a des gens qui nous le disaient que ça allait pas être linéaire, on s'y attendait un petit peu quand même en se disant « on n'est pas les premiers à faire ça ». Mais finalement, il faut vraiment y aller de façon agile, c'est-à-dire y aller étape par étape, puis après ça, on prendra la décision suivante. Parce que c'est dur de prévoir comment ça va se passer. Il peut y avoir des pépins à toutes sortes de moments tout le long du processus.
Vous pensez qu'à partir de là, ça peut prendre combien de temps pour la suite des choses pour vous de
rencontrer? Ça dépend en moyenne, parce qu'il y a des entreprises en dehors du Québec qui offrent une agence de rencontre, dans le fond, entre les parents d'intention et les femmes porteuses. Eux, quand ils font une entreprise privée, ils disent que c'est environ 9 mois d'attente pour rencontrer une femme porteuse. Pas pour la grossesse, c'est pas parce qu'on paye que c'est moins long.
Ouais.
mais au final, c'est ça, c'est pour rencontrer la femme porteuse. Dans notre cas, nous, on a préféré y aller d'abord par des publications sur les réseaux, justement, pas nécessairement pour quelqu'un qu'on connaît, mais pour y aller nous-mêmes, donc pour que ce soit un petit peu plus humain. Puis tantôt, tu parlais de l'émotion. Et nous, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on retient le plus, l'émotion dans ce processus-là, les vagues d'amour qu'on reçoit, parce que, comme on disait tantôt, depuis le début, que tout le monde est au courant qu'on fait ça. Puis on se fait valider à chaque étape. Mon Dieu, vous allez être des bons pères, des bons parents. Depuis la publication d'hier, c'est des centaines de messages pour nous dire juste félicitations les gars, c'est beau ce que vous faites.
C'est le fun d'en entendre parler aussi parce que
il y a du support et de l'encouragement dans le processus. Puis l'image qu'on aime beaucoup, c'est que ça prend un village pour élever un enfant, mais nous, c'est vraiment que ça prend un village pour le créer. Autant les gens qui sont plus directement dans le dossier, les professionnels, mais même tous nos proches qui nous supportent à travers ça, on a besoin de ce support-là.
Sentez-vous que, tu sais, parce que j'ai des amis aussi qui sont homosexuels, puis tu sais, qui ont eu d'autres moyens pour avoir des enfants. Tu sais, je veux dire, la famille 2024, elle est très différente et c'est parfait comme ça. Sentez-vous qu'il y a comme un changement peut-être, qui, tu sais, comme une voie, pas qui est plus facile, mais déjà du moins...
Des mentalités différentes.
Oui, c'est ça. On fait un pas vers l'avant aussi avec les conditions pour...
C'est sûr qu'avec nos proches, on n'a jamais senti de jugement. On a plutôt senti l'inverse, c'est-à-dire beaucoup d'acceptation et d'encouragement. Mais on avait une petite nervosité cette semaine en sachant qu'on allait faire la publication sur nos profils personnels en se disant, est-ce qu'on va avoir des commentaires? Est-ce que quelqu'un à qui on ne parle pas souvent, mais qui est sur notre Facebook ou quoi que ce soit, va faire un commentaire bizarre? Honnêtement, on n'a eu que du positif. Parmi nos collègues de travail aussi, on en parle, c'est très ouvert. On sent vraiment qu'on est en 2024, on est très avancé sur l'acceptation des formats de famille différentes.
Oui. Et ce qui est beau là-dedans aussi, c'est que tout ce processus-là, vous en parlez, vous le documentez aussi d'une certaine manière, c'est que cet enfant-là, vous allez pouvoir montrer à quel point il a été désiré, à quel point vous avez travaillé fort aussi pour l'avoir.
Donc, ça n'a pas pris comme juste un petit 2 minutes comme certains parents.
Non, mais c'est ça exactement. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances. Les gars, merci de nous parler de cette réalité-là. Puis, écoutez, je vous souhaite de trouver une femme porteuse pour pouvoir mener votre projet à terme et avoir un enfant. Donc, écoute, les délais, on verra. Je souhaite juste que ça fonctionne.
Puis, bravo, parce que c'est pas nécessairement toujours facile de venir parler de sa vie personnelle aussi, tu sais, dans une vitrine publique comme ça, mais vous allez probablement aussi aider d'autres couples.
C'est un peu notre volonté parce que l'inconnu fait peur.
Oui.
Donc, plus on parle de nos réalités, plus on comprend les autres réalités, puis plus on est ouvert aux autres. Donc, c'est un peu notre but, notre agenda dans tout ça.
Démocratiser le sujet à la fois.
Exact.
Mais merci beaucoup pour l'invitation.
Charles Savard, Louis-Maxime Tremblay, si jamais quelqu'un nous entend puis veut vous envoyer du support ou tout ça, on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux?
Absolument. Oui, puis même, justement, s'il y a des gens qui ont des questions juste pour démystifier le processus, venez nous poser des questions, ça va nous faire plaisir d'en parler puis aider les autres. Donc, voilà.
Ça va être les meilleurs pères du monde.
Nathan qui est revenu de boulevard pour venir voir.
Tu vois, je veux venir voir les gars.
Écoutez-nous.